La Chine s'est déclarée prête à intensifier sa coopération pratique avec la Russie. La Chine est prête à travailler avec la Russie pour concrétiser ensemble les consensus importants auxquels sont parvenus leurs chefs d'État respectifs et favoriser la coopération pratique bilatérale dans un éventail de domaines plus vastes, de secteurs plus élargis et à des niveaux plus profonds, a déclaré vendredi le vice-premier ministre chinois Han Zheng. Monsieur Han, qui est aussi membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois PCC, s'est ainsi exprimé lors d'une conversation téléphonique avec le premier vice-premier ministre russe Andrei Belousov. Sous le leadership stratégique du président chinois Xi Jinping et de son homologue russe Vladimir Poutine, le partenariat stratégique global de coordination Chine-Russie pour une nouvelle ère est entré dans la meilleure période de son histoire, a-t-il dit. Récemment, les deux chefs d'État ont annoncé ensemble la prolongation du traité de bon voisinage et de coopération amicale Chine-Russie, enrichissant les relations bilatérales et esquissant un plan pour la coopération entre les deux pays dans la nouvelle ère, a-t-il noté. M. Han a appelé les deux pays à approfondir leur coopération dans la lutte contre le nouveau coronavirus et en matière de vaccins, et à relever conjointement le défi posé par cette pandémie. M. Belousov a exprimé ses félicitations pour le centenaire du PCC, ajoutant que la célébration par les deux pays du 20e anniversaire de la signature du traité de bon voisinage et de coopération amicale Russie-Chine constituait cette année la principale activité en faveur du développement des relations russes-chinoises. Il a déclaré que Moscou était disposé à saisir cette occasion comme une opportunité permettant d'approfondir la coopération avec Beijing dans différents domaines et à élever plus haut encore le partenariat stratégique global de coordination Russie-Chine pour une nouvelle ère. Rappelons les importants progrès accomplis par la Chine dans la lutte contre la pandémie, M. Belousov a dit que son pays était prêt à renforcer sa coopération avec elle dans des domaines tels que la recherche et le développement du vaccin, ainsi que sa production. L'Iran serait en passe de devenir le plus important acheteur de chasseurs russes de cinquième génération. L'Iran a besoin de moderniser son armée de l'air et pourrait donc conclure dans un proche avenir un contrat avec la Russie pour la fourniture de centaines d'avions de combat de cinquième génération. La clé de tout cela réside dans le fait que le Suri 75 russe s'est montré supérieur au chasseur F-35. Et grâce à son coût vraiment bas, le contrat pour la fourniture de chasseurs légers de 5e génération ne coûtera à Téhéran que 3 milliards de dollars. Auparavant, on avait appris que les autorités iraniennes prévoyaient d'acheter dans un proche avenir un gros lot d'avions de combat d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars. Et dans ce cas, le dernier cri de l'armée de l'air russe pourrait s'avérer une solution vraiment efficace. D'autant plus que l'armée de l'air iranienne est intéressée par un tel achat. Une fois reçu les Su-75 russes, l'Iran pourra facilement faire face à l'armée de l'air israélienne, puisque l'avion de combat léger russe de 5e génération surpasse de loin le F-35I. À dire, en matière de supériorité aérienne et de technique et de combat, il faut supposer qu'Israël n'hésitera pas à recourir à tous les moyens dont il dispose pour empêcher la conclusion d'un tel achat, et font remarquer certains experts. En France, alors que l'Assemblée nationale a finalement dit oui au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale pour les soignants, un autre projet de loi a été adopté, celui dit contre le séparatisme. En deux mots macro, le sioniste a cassé la France qui a poussé le pays vers la guerre civile. Projet de loi contre le séparatisme, le Parlement l'adopte définitivement ce 23 juillet. L'Assemblée nationale a définitivement adopté le texte contre le séparatisme. Via un ultime vote de l'Assemblée, le projet de loi controversé contre le séparatisme est définitivement adopté avec des mesures sur la neutralité du service public, la lutte contre la haine en ligne ou l'encadrement de l'instruction en famille. Malgré un baroud d'honneur des députés de la France insoumise et les filles, les députés ont approuvé en lecture définitive le 23 juillet par 49 voix pour, 19 contre et 5 abstentions le projet de loi confortant le respect des principes de la République, parfois surnommé loi contre le séparatisme. Son adoption avait été retardée de 24 heures en raison du nouveau projet de loi anti-Covid. Gauche et droite ont en outre annoncé saisir le Conseil constitutionnel. Après 7 mois d'aller-retour entre Palais Bourbon et Sénat, le texte avait été présenté comme un remède à l'EPA islamiste, selon l'expression du ministre de l'Intérieur. Au Palais Bourbon, la majorité a assoupli un texte auparavant durci par le Sénat avec des mesures contre le port du voile ou renforçant la neutralité à l'université. Jean-Luc Mélenchon et les filles ont défendu en vain une dernière motion de rejet préalable contre une loi anti-républicaine à vocation anti-musulmane, selon lui. Mais le texte est de portée générale et ne traite pas des rapports avec une seule religion, a assuré le président La République En Marche et le REM de la commission spéciale François de Rugy. Porté par le ministre Gérald Darmanin, il contient une batterie de mesures sur la neutralité du service public, la lutte contre la haine en ligne, la protection des fonctionnaires et des enseignants, l'encadrement de l'instruction en famille, le contrôle renforcé des associations, une meilleure transparence des cultes et de leur financement, et encore la lutte contre les certificats de virginité, la polygamie ou les mariages forcés. Les députés LFI communistes PCF, socialistes PS et des républicains LR ont voté contre pour des raisons différentes. Les socialistes notamment y voient un rendez-vous manqué avec la République et une marque de défiance à l'égard des associations, quand la droite le résume à une addition de meurette sans ambition pour faire reculer les islamistes. Droite et gauche s'accordent cependant sur les risques pour la liberté d'association qui motivent des recours respectifs auprès du Conseil constitutionnel. Sur les trois groupes du bloc majoritaire, LREM et ses partenaires, Modem et Agir, se sont prononcés pour. Isabelle Florence Modem a toutefois exprimé quelques bémols, déplorant l'absence finale de mesures sur la neutralité au sein des bureaux de vote ou dans les universités. L'Azerbaïdjan aurait commencé un transfert rapide de ses troupes vers le territoire de l'Arménie. Une vidéo est apparue sur le web qui a capturé le moment du transfert d'un convoi militaire azerbaïdjanais avec d'équipements militaires lourds et légers vers le territoire de l'Arménie. On suppose que ce transit militaire se soit effectué via l'une des autoroutes situées sur le territoire de l'Arménie. Et ce alors que les experts estiment que ce fait indique une escalade rapide de la tension entre Bakou et Erevan. La séquence vidéo montre comment l'Azerbaïdjan déploie plusieurs camions militaires, véhicules blindés légers et plusieurs pièces d'artillerie sur le territoire de l'Arménie. Pour l'instant, tout ce que l'on sait est que la vidéo a été réalisée sur le territoire de la région du Syunik, en Arménie, alors que l'emplacement actuel des forces azerbaïdjanaises reste inconnu. Cependant, compte tenu des informations précédemment publiées, plus d'un millier de militaires azerbaïdjanais et divers équipements militaires ont été déployés le long des frontières azéro-arméniennes. Apparemment, l'Azerbaïdjan envisage de couper la région de Syunik du territoire principal de l'Arménie afin d'assurer une communication directe avec le Nakhchivan, bien que dans le même temps, Bakou nie toute escalade à la frontière avec l'Arménie. L'étoile jaune en retour en Israël. Les Israéliens récalcitrants au vaccin mettent l'étoile jaune. La technique est connue afin de ne pas répondre au fond du problème du passe sanitaire liberticide, de ne pas s'interroger sur la privation de liberté fondamentale la bien-pensance covidienne qui trône sur les plateaux télé détourne l'attention sur la scandaleuse étoile jaune portée par les résistants à la vaccination. Forcé avec des produits géniques, expérimente que veut imposer le petit Macron. Écrit à l'antisémitisme, ce qui n'a rien à voir pourtant avec le problème, les injections anti-Covid. Et fait ainsi l'amalgame entre l'antipasse sanitaire et l'antisémitisme, afin de diaboliser les premiers. Pourtant, à y regarder de plus près, ce sont les Israéliens eux-mêmes, vivant dans l'État hébreu, qui ont ressorti lors des manifestations pro-liberté à Tel Aviv, en février dernier, l'étoile jaune. Pour témoigner de leur opposition au passeport vert, le premier nom donné au passe sanitaire. Question au grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui évoque des amalgames dangereux sur Europe 1. Ces Israéliens seraient-ils donc minés par un antisémitisme primaire quand ils comparent le passe sanitaire actuel qui interdit aux non-vaccinés restaurants, cinémas, trains, emplois aux mesures d'interdiction similaires édictées par le régime nazi en Allemagne contre les Juifs. N'y a-t-il pas là un même principe de ségrégation envers les Juifs hier, les non-vaccinés